Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une section de textes tirés des médias suivants. Bel âge et l'histoire. Au programme, heureux Bégin et merveilleuse Brocéliande. Bonne écoute!
Heureux Bégin, un texte de Caroline Fortin, paru dans le magazine Bel Âge, Plus, mai-juin 2023. Plus occupé que jamais, Christian Bégin, qui vient d'avoir 60 ans, goûte chaque instant de cette nouvelle décennie qui lui sourit. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez à Kamouraska, en train de réaliser que votre vie était articulée autour du travail. Comment ça va, 3 ans plus tard? Je vais très bien. Ma vie est toujours en grande partie axée autour du travail, mais il y a tout un aspect de ma vie personnelle qui s'est beaucoup apaisé et qui fait en sorte que je trouve un certain équilibre. Le fait d'avoir quelqu'un dans ma vie, dans l'intimité, change mon rapport à tout. Alors je suis à la fois extrêmement occupée, mais aussi très déterminée à donner du temps à ce qui se présente. Est-ce ce temps d'arrêt qui vous a donné l'étincelle pour renouer avec l'humour et écrire les 8 péchés capitaux selon Christian Bégin? Pour dire la vérité, l'étincelle n'est pas venue de moi. C'est René Brisebois, qui travaille à la script édition du spectacle, qui m'a dit qu'il serait temps que je remonte sur scène seul. Il m'a proposé la formule des 8 péchés capitaux, dont il voulait faire un format récurrent, offert chaque année à différents artistes. Mais ça ne se produira pas, parce que je me suis tellement approprié cette formule, que j'ai d'ailleurs déconstruite. Je me suis aperçu que mon impulsion, ma motivation pour écrire, était de vérifier si j'étais encore en écho avec le monde dans lequel je vis, si je n'étais pas en train de flirter avec mon obsolescence programmée. Bref, je voulais vérifier si j'étais encore pertinent. Et quelle est la réponse? Les débuts ont été houleux, rocailleux. Après les critiques de la première, je n'avais aucun plaisir à donner mon show. Mais on ne peut pas demander aux gens d'avoir du plaisir à le recevoir si on n'en a pas à le donner. Ça a été une très grande leçon pour moi. J'ai reformulé, repoli mes textes, trouvé les codes pour dire ce que j'avais à dire, et là, oui, je trouve que ça résonne. Dans ce spectacle, il y a une réflexion sur la société qui change si vite qu'il est facile de se sentir dépassé. Ce contexte actuel creuse-t-il encore davantage le fossé entre les générations? Je pense que oui. Mais en même temps, mon expérience me dit que cet inconfort devant la vitesse des changements auxquels on est soumis n'est pas le propre d'une génération en particulier. Peut-être que le fait de vieillir exacerbe l'inconfort devant les changements. Mais on constate, même dans les écoles primaires, la prévalence accrue de l'anxiété chez les jeunes. Ça vient sûrement de ce monde qui change, avec des adultes qui devraient être plus structurants, mais qui eux-mêmes peinent à absorber ces changements. Je pense que ce monde-là, en mutation, fait en sorte que ces inconforts sont transgénérationnels. Vous avez aussi dit vouloir vérifier, avec ce show, si vous étiez devenu ringard. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on le devient? Et à l'inverse, que faut-il faire pour ne pas devenir réactionnaire? Je pense que si on devient réactionnaire, C'est parce qu'on oppose trop de résistance au changement et qu'on s'accroche à quelque chose du monde duquel on vient, alors qu'on ne peut être que de son époque. Le problème, c'est qu'en ce moment, on remise les vieux et qu'on décrédibilise la parole des personnes âgées. C'est comme ça à toutes les époques. Mais j'ai l'impression, peut-être parce que je fais partie de ces personnes vieillissantes, qu'il y a un certain âgisme, un certain culte de la jeunesse qui fait qu'on n'entend pas la parole des vieux, qu'on s'est complètement coupé de leur savoir. La pandémie a d'ailleurs mis ça en relief. Mais la responsabilité de la génération vieillissante, c'est de constater que le monde change, ce qui n'empêche pas de s'interroger à cet égard. Il y a des choses que je comprends moins, qui me dépassent et que je dois quand même accueillir. Si on cesse de participer à la conversation, si on rejette tout en bloc, c'est là qu'on devient ringard, à mon avis. Cette année, vous fêtez votre 15e saison à la barre de Curieux Bégin. D'après vous, qu'est-ce qui a changé en 15 ans dans notre rapport à l'alimentation? La frénésie de nos vies ne nous laisse plus le temps de cuisiner à la maison. Ce que je constate, par contre, c'est qu'il y a une plus grande préoccupation quant à la nécessité de développer une autonomie alimentaire et un souci de locavorisme. En ce moment, la flambée des prix et la montée inflationniste ralentissent ce mouvement locavore parce qu'une fois à la caisse, ce qui va compter, c'est le prix. En même temps, on manque de littératie alimentaire. On ne sait plus comment transformer nous-mêmes nos aliments. Je crois qu'on a cette impression fausse et pernicieuse que des mets préparés nous reviennent moins chers. Sauf que si on achète un poulet bio et qu'on l'utilise entièrement, il va nous permettre de faire plus de repas, ce qui, au bout du compte, va coûter moins cher. Vous venez d'avoir 60 ans. Est-ce que ça ralentit le boulimique en vous? Combien de fois me suis-je dit que j'allais ralentir? Et combien de fois mes proches m'ont dit d'arrêter de me raconter ce mensonge? J'ai le grand privilège d'avoir une maison à Kamouraska, ce qui me permet de me poser. Et j'ai la chance, à 60 ans, qu'on me propose encore des projets différents, la chance de ne pas être encapsulé dans une affaire et de me lancer moi-même de nouveaux défis. Comme cet essai que je m'apprête à écrire sur le territoire de l'intime qui est en train de se diluer dans la spectacularisation de nos vies. Vous écoutez « Heureux Bégin », un texte de Caroline Fortin, paru dans le magazine Bel Âge Plus, mai-juin 2023. Le spectre de l'âgisme ne vous touche donc pas encore? Je suis un gars et je ne vis pas du tout la même réalité qu'une femme. On n'arrête pas de me dire que je suis plus beau à l'âge que j'ai l'air plus mature, que je maîtrise mieux mon métier. Il va falloir en parler de cet épouvantable double standard-là. Le poids du vieillissement repose sur les femmes, elles qui portent déjà l'odieux dans les luttes qu'elles ont à mener. L'âgisme, j'en souffre un peu, mais jamais comme une femme va en souffrir. C'est une grande injustice. Alors, vous vivez bien avec le temps qui passe? Du tout. J'haïs vieillir. Je rationalise que c'est un privilège. Mais si j'avais pu arrêter les aiguilles de l'horloge à 52 ans, je l'aurais fait. Je n'aime pas l'idée que la nature des années qui s'en viennent, même si je me tiens en forme, même si je fais tout pour rester en écho avec mon époque, ne sera pas la même que les années qui précèdent. Comme je ne peux rien y changer, je fais avec, de mon mieux. Aussi, le fait que l'amour soit arrivé dans ma vie à un moment où je ne croyais plus ça possible me donne envie d'arrêter le temps pour jouir de cette relation. Comment vous projetez-vous à 75, 80 ans? Serez-vous encore épicurien? Absolument. Je ne sais pas si je vais encore jouer au théâtre, comme Béatrice Picard, parce que ça me fait plus souffrir qu'avant. Mais je serai encore probablement aussi épicurien, actif, boulimique. Je suis un jouisseur, un curieux. Je veux apprendre tout le temps. Je pense que c'est une façon de rester dans la vie. Mon fils travaille en ce moment au projet Habitat, qui s'intéresse au vieillissement de la population avec l'organisme 1 et 1 font 1000. Il est en contact avec des personnes âgées qui veulent être partie prenante du monde dans lequel elles vivent. Et il me dit se rendre compte que la clé du vieillissement, c'est de participer au monde. Tchekhov disait « Un homme qui ne rêve pas est un homme mort. » Moi, je dirais « Un être humain qui ne participe plus au monde, c'est un être humain qu'on condamne, qu'on remise. » Cela dit, je sais que tous n'ont pas cette chance. En rafale. Le rôle de votre vie? Pierre-Paul, dans la série Rumeurs, m'a propulsé. Ça a été une espèce de bougie d'allumage. Celui dont vous rêvez encore? J'ai rêvé de Néron dans Britannicus, mais je ne le jouerai jamais parce que je n'ai plus l'âge. Et Benoît McGuinness et Francis Ducharme l'ont joué de façon grandiose. Le plus difficile à jouer, le docteur Louis Richard dans « Le problème d'infiltration » de Robert Morin, la plongée dans quelqu'un d'assez monstrueux avec des scènes très exigeantes, très dures à jouer. Le show dont on vous parle encore? Télépirate. Il n'y a pas une journée où je ne m'en fais pas parler. Toute une génération l'a écouté, des gens qui ont maintenant environ 35 ans. Le rôle qui vous ressemble le plus? Probablement Pierre-Paul dans Rumeur, un gars qui a une vie amoureuse pas très réussie, mais quand même une bonne joie de vivre et une espèce d'autodérision par rapport à qui il est. C'était Curieux Bégin, un texte de Caroline Fortin, paru dans le magazine Bel Âge Plus, mai-juin 2023. Merveilleuse Brocéliande, un texte de Amaury Chauhou, paru dans le magazine L'Histoire, numéro 503, janvier 2023. L'imaginaire symbolique qui entoure la forêt médiévale est très fort, d'abord païen, puis chrétien. Je vis la forêt et je vis le pays. J'étais en quête de merveilles. Mais je n'en ai pas trouvé. Je revins aussi sot que j'étais parti. Le roman de Roux de Weiss, chroniqueur de la cour Plantagenet au milieu du XIIe siècle, porte la marque des merveilles de Bretagne comptées par les bardes bretons. Mais son expédition en Bretagne armoricaine pour constater ces merveilles fut vaine. Dès cette époque, la forêt de Brocéliande est solidement associée à la matière de Bretagne, un ensemble de légendes et de chansons au mysticisme celtique caractéristique qui rendit populaires des personnages comme le roi Arthur ou Merlin l'Enchanteur, qui vit dans cette forêt. Brocéliande est ainsi associée à ces enchantements comme lieu de l'aventure et de la rencontre avec l'autre monde, des piliers de l'univers arthurien et de la Table Ronde. On la localise aujourd'hui dans la forêt de Pimpon, un vaste espace boisé de 9000 hectares entre l'île Évilaine et le Morbihan. Des créatures fantastiques. De quoi inspirer l'auteur de romans de chevalerie Chrétien de Troyes, vers 1135 à vers 1183. Sous sa plume, l'imaginaire ambigu de la forêt au Moyen Âge s'incarne en particulier dans un personnage, Esclados le Roux, gardien de la fontaine magique de Barenton dans Yvain ou le chevalier au lion. Il est l'un des plus connus de cette galerie d'êtres surnaturels qui, comme les merveilles de l'aventure, surgissent la plupart du temps quand le bon chevalier prend congé de la Table Ronde. Aux marges de l'espace arthurien, ce dernier aborde des contrées inconnues, forêts ou landes, peuplées de créatures fantastiques. Des nains, tels celui qui invite Lancelot à monter dans la charrette d'infamie, le chevalier de la charrette. Des géants, comme le Morholt, que Tristan terrasse alors qu'il désolait chaque année la cour en y enlevant des jeunes gens, des monstres du bestiaire médiéval, à l'instar de ces bêtes sauvages qui s'inclinent devant un cheval magique sous les yeux de Gauvin, la mule sans frein, ou encore d'intrigantes demoiselles qui, rencontrées dans l'épaisseur d'une forêt ou au seuil d'une fontaine, peuvent lire dans le passé ou le futur des hommes. Parmi ces fontaines, celle de Barenton est le seul édifice qui raccroche matériellement aujourd'hui la forêt de Brocéliande à l'imaginaire médiéval. Elle reste le point de la forêt le plus visité par les touristes, qui versent encore une écuelle d'eau sur son perron en espérant déclencher le tonnerre et faire surgir son gardien. La christianisation du surnaturel. À la suite de Chrétien de Troyes, les romans en prose du XIIIe siècle donnent une deuxième facette à l'imaginaire qui entoure la forêt. D'un côté, le merveilleux reste enchanteur. Par exemple, dans l'immense Lancelot en prose, est introduit le thème de l'enlèvement du jeune Lancelot par la Dame du Lac, ou celui de sa rencontre dans la forêt bretonne avec la fée Morgane qui, par jalousie, enferme le valeureux chevalier dans son château enchanté. Mais si cette dimension profane se maintient, d'un autre côté, la christianisation des motifs surnaturels se fait aussi très forte. Les romans de la matière de Bretagne multiplient, à partir de cette époque, les signes du divin. Les chevaliers entendent des voix célestes. Ils sont transportés par une nef miraculeuse. Ils trouvent au milieu de la forêt une chapelle grande ouverte, dont la cloche sonne alors qu'elle est déserte. Dans son épiphanie à la Table Ronde, le Graal n'est plus ce plat ou tailloir rappelant un ustensile noble, mais une coupe sacrée où Joseph d'Arimathie a recueilli le sang du Christ à la descente de croix. Sa spiritualisation est définitive. La forêt de Brocéliande, comme tous les lieux merveilleux dont les romans arthuriens sont parsemés, est donc à deux visages, foyer de l'inculte et du sauvage, voire du païen. Le latin « incultus » renvoie à cette notion. Elle est aussi un espace où la civilisation courtoise offre ce qu'elle a de meilleur, en ce sens que l'aventure des chevaliers en chasse la présence du démon. En matière de mode d'exploitation, le Moyen Âge semble avoir hésité, par coupe au pied, c'est-à-dire à l'unité, en choisissant les arbres, ce qui correspond au furetage ou jardinage, distinguant les plus beaux et abandonnant les autres au bois de feu, au charbonnage, au gré des besoins. Les forestiers peuvent aussi opérer par coupe à l'unité de surface, arpents, quartiers, appelés aujourd'hui coupe par assiette, par coupe rase ou coupe avec réserve de baliveau, coupe à fleurs de terre ou de charbonnier. Chacun de ces modes a contribué à façonner la physionomie des peuplements forestiers. Jusqu'au XVIe siècle, néanmoins, le régime forestier a privilégié le furetage, la coupe au pied, tendant à produire des peuplements très clairs. Une forêt peu ombreuse permettant aux tapis herbacés et aux sous-bois de s'y développer, fabriquant ainsi un milieu de vie favorable aux cervidés ainsi qu'aux bovins et chevaux, dont les déjections sont bénéfiques au cycle de la fertilité. Autant de fumures ainsi dérobées aux champs. Mais dans certaines régions, la pratique du soutrage, la coupe superficielle du sol est prélevée pour récupérer le fumier laissé par les animaux paissant en forêt, permettait aux plus pauvres de fertiliser leurs terres. La nécessité émerge de suivre des règles pour assurer une production ligneuse durable. De ces pratiques, les sols ont conservé la mémoire. Les études sur la végétation herbacée dans la montagne jurassienne ou dans les Vosges ont révélé une baisse de la fertilité des sols et une perte de la biodiversité forestière là où il y avait eu d'anciennes pâtures. L'analyse morphologique des sols a pu rendre compte des impacts du piétinement, de la compaction des terres sur leurs propriétés chimiques et leur fertilité. Et comme cela fut le cas en forêt de Compiègne, attester l'existence d'un pâturage intense. Nos écosystèmes forestiers d'aujourd'hui sont largement tributaires du passé de ces espaces. Un équilibre menacé. En plus de la pression agropastorale, il ne faut pas oublier les différentes activités sidérurgiques et minières ou l'exploitation commerciale du bois de construction. Après le XIIIe siècle, les forêts méditerranéennes semblent déjà bien fragilisées par l'érosion due à l'essartage et au fournelage, ces pratiques consistant à arracher et amasser des végétaux qui sont brûlés pour obtenir de l'engrais. Les espaces plus septentrionaux ne connaissent que des forêts éclaircies, pénétrées par des prés de fauche, des enclos de pâture, entrecoupés de clairières où ont été établies des fermes, granges monastiques ou laïques, certaines dédiées à une exploitation pastorale spéculative, porcs ou moutons. Dès la première moitié du XIIIe siècle, comme en Hainaut, et plus généralement au cours des deux siècles suivants, émerge dans les comptabilités forestières la prise de conscience des impacts causés par les phénomènes météorologiques, tempêtes, grands froids, biologiques, maladies cryptogamiques ou les incendies, auxquels s'ajoutent les passages dévastateurs des bandes armées pendant la guerre de Cent Ans. Les communautés usagères seraient loin d'être en reste dans ce processus si l'on en croit les plaintes répétées des officiers forestiers. La réglementation se durcit au cours du XVe siècle. Les condamnations à des amendes ou à des suspensions d'usage se multiplient pour vol de bois ou pour divagation des animaux d'élevage qui broutent là où ils ne sont pas censés le faire. La nécessité émerge de suivre des règles pour assurer une production ligneuse durable. Au fil du XIIIe siècle, avec le développement des villes et des activités proto-industrielles, les besoins en bois augmentent considérablement, menaçant l'équilibre des forêts. Ce changement de perception se note plus sensiblement dans les contrées méridionales, contrôle du charbonnage pour éviter les incendies, mise en défense des bois plus dégradés, ainsi dans les forêts royales du Roussillon, où les troupeaux ne sont plus autorisés à paître au XIVe siècle. Jusqu'alors, le repeuplement des forêts s'effectuait par rejet de souches ou par fructification, puis germination, en réservant des baliveaux lors des coupes. Dès la fin du Moyen Âge, apparaissent en France du Nord des tentatives de repeuplement par plantation. Cette pratique concerne d'abord le chêne et témoigne d'une certaine prise de conscience que la régénération des bois doit être non seulement aidée, mais organisée. Sans rejeter toute sensibilité à l'environnement, ce sont des préoccupations d'ordre plutôt économique qui sous-tendent ces mesures. En définitive, au cours du millénaire médiéval, les espaces forestiers ont reculé au profit des terroirs cultivés et des habitats, mais il ne s'agit nullement d'un mouvement uniformément linéaire. C'était « Merveilleuse Brocéliande », un texte de Amaury Chauhou, paru dans le magazine L'Histoire numéro 503, janvier 2023.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.